Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour, nous recevons aujourd'hui Loïc Hervé.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur général délégué de Périal AM. Périal, je le rappelle, c'est l'une des plus anciennes sociétés de gestion de SCPI. Elle gère aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros d'actifs immobiliers. À travers différents véhicules, nous y reviendrons. Et surtout, elle fait partie des gestionnaires les plus en pointe sur les thématiques ESG et ISR. Non seulement parce que vous avez annoncé plusieurs initiatives en ce domaine récemment, mais parce que l'une de vos SCPI, PFO2, a été la première, dès 2009, à se positionner sur le créneau de l'investissement immobilier durable. Alors c'est le premier sujet que je voulais aborder avec vous, la montée en puissance de l'investissement responsable dans l'immobilier. Tout le monde en parle, comme vous l'écrivez dans un de vos communiqués, mais est-ce que tout le monde en fait réellement ?
Alors je ne sais pas si tout le monde en fait réellement, mais très clairement, c'est une obligation aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément encore en 2009, vous l'avez rappelé, quand on a lancé la première SCPI qui appliquait avec 10 ans d'avance le décret tertiaire. Aujourd'hui, c'est clairement une obligation et on a la conviction que nous n'arriverons plus à vendre nos produits s'ils ne sont pas effectivement très en pointe sur les critères ESG. Donc on a une vraie stratégie d'analyse avec 60 critères sur l'ensemble de notre parc immobilier qui nous permet in fine de labelliser nos fonds, mais dans une démarche de progrès permanent avec des contrats d'amélioration sur chacun des items pour chaque actif de façon à les emmener systématiquement au-dessus de la moyenne.
Mais est-ce que vous, dans vos concurrents, si je puis dire, vous ressentez cette même obligation, d'accord, mais aussi nécessité et besoin dans leur analyse des propres projets qu'ils financent ?
Oui, on le voit de plus en plus et très clairement, à l'investissement, ce sont des critères qui deviennent absolument essentiels dans les grilles d'analyse. Discriminant, clairement. Nous, on s'autorise à refuser un investissement s'il n'est pas conforme à nos grilles ESG. On le voit aussi dans la conduite de la gestion avec des initiatives de place de plus en plus marquées, notamment sur les restructurations et la rénovation d'actifs, mais également sur la façon dont on va conduire en asset management les relations avec nos clients locataires.
Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les labellisations immobilières. Moi, je voudrais qu'on s'attarde deux secondes sur le label ISR immobilier, donc qui a été lancé il y a à peine un an, en octobre 2020. Il y a de plus en plus d'émules. Et aujourd'hui, enfin, la SPIM en décomptait à peu près 30 fin septembre. De nouveau se déclare pratiquement chaque semaine. Alors, on se demande d'ailleurs si l'obtention de ce label n'est pas un peu trop automatique et s'il ne faudrait pas, comme certains le demandent, mettre en place un label à plusieurs vitesses. Vous en pensez quoi ?
Alors, tout d'abord, on est très heureux de la création du label ISR et on a vraiment œuvré et participé au groupe de travail pour créer ce label. Donc ça, c'est une très bonne chose et c'est un très bon marqueur sur l'ensemble du marché. Il est vrai que, et on l'espère d'ailleurs, que l'ensemble des fonds, l'ensemble de l'industrie labellisera ISR tous ces fonds. Donc oui, on va devoir aller dans une gradation de la qualité et de la conduite de la gestion des actifs immobiliers et très clairement avoir, comme on l'a sur les autres labels, BRIM, HQE, LEED, un niveau de gradation. Et bien entendu, chez Périal, on cherchera systématiquement à être en ISR Platinum. Donc c'est quelque chose de fondamental pour nous. Et c'est loin d'être donné automatiquement. On a clairement eu un travail approfondi pour y avoir participé avec mes équipes l'année dernière dans les premières labellisations. Je peux vous assurer que l'auditeur AFNOR nous a particulièrement challengé sur ces sujets.
Donc c'est pas si simple à obtenir. Alors il y a, on l'a dit, c'est une obligation, une tendance de marché incontournable. Mais sans remettre en cause la démarche et le bien fondé de la démarche ESG, il y a quand même certains asset managers qui commencent à alerter sur le coût de ces nouvelles exigences en termes de rentabilité d'actifs. Donc ça veut dire concrètement que l'immobilier coûtera plus cher et rapportera moins.
Alors non, ni dans l'immédiat, ni encore moins à terme, puisqu'à terme on va créer de la valeur verte très clairement et les actifs qui ne seront pas au top en matière ESG seront forcément déclassés et repricés. Donc ça, c'est une évidence. Donc en termes de performance des fonds à moyen et long terme, il n'y a pas de discussion. Dans le court terme, il y a plein de choses à faire avant de mettre des capex lourds sur les actifs immobiliers. D'abord, bien entendu, quand on achète les immeubles, on essaye de faire en sorte qu'ils soient conformes à nos grilles, comme je l'indiquais tout à l'heure, ESG. Et en récupération de gestion, il y a tout un travail avec les property managers et avec les locataires en place pour régler correctement les actifs immobiliers, pour apporter des améliorations significatives. Et tout ça coûte pas grand-chose et permet permet d'avoir déjà de très bons résultats. Et après, quand effectivement les locataires tournent, on en profite pour rénover les immeubles. C'est là où il y a un travail également très important avec les collectivités locales. Quand on est face à des points morts, ça peut arriver, pour valoriser des droits à construire qui vont nous permettre de travailler plus sereinement sur les business plans des actifs et dégager de la création de valeur. Donc pour nous, on le voit pas comme un centre de coût, mais au contraire comme une opportunité d'améliorer encore les performances des actifs. En revanche, c'est vrai, il faut être très sélectif. Et puis quand on est face à des actifs qui commencent à être relativement obsolètes et sur lesquels on n'a pas forcément de solution, il faut savoir vendre et on pratique, nous, assez intensivement la rotation de nos actifs sur l'ensemble des fonds gérés par Perial Asset Management.
Alors, vous êtes très présent sur une classe d'actifs dominante aujourd'hui. Le bureau, justement, c'est typiquement un actif qui demande à être rénové, qui demande à être flexibilisé, notamment par rapport à la nouvelle donne du télétravail. Comment vous agissez concrètement sur cette classe d'actifs aujourd'hui ?
On écoute d'abord ce que nous disent nos clients et post-crise, avec toutes les enquêtes que nous menons, nous apercevons déjà que l'immense majorité de nos clients passent en télétravail, hein, plus de 90%, avec une majorité à 60% sur deux jours. Ça a des impacts sur la façon dont ils s'organisent au sein des locaux. Donc ils nous demandent beaucoup plus de flexibilité en aménagement, de flexibilité également dans les contrats de location. Une forme de dispersion géographique qui correspond à la temporalité quelque part de l'organisation du travail, puisqu'on voit émerger la notion de tiers-lieu, notamment autour du maintien à domicile pour les collaborateurs qui sont soumis à des régimes de télétravail 2 ou 3 jours. Très clairement, à un moment donné, il y a une difficulté de viabilité de maintien à domicile à long terme sur des hautes périodes qui nécessite d'avoir des locaux adaptés. Donc on travaille énormément, nous, à faire muter nos actifs immobiliers pour répondre à cette nouvelle demande. C'est le premier axe. Et le deuxième, bien entendu, c'est la fragmentation du marché à deux vitesses, avec une demande accrue et concentrée de la demande locative sur les CBD, sur la première couronne, sur des actifs parfaitement aux normes environnementales et parfaitement connectés sur les transports en commun. Donc ceci... ce sont des actifs pour lesquels les loyers continuent à monter, les valeurs continuent à progresser. C'est beaucoup moins le cas sur la deuxième partie. Et donc, c'est là où il faut trouver des solutions, encore une fois, notamment avec les collectivités locales, dans la retransformation des actifs immobiliers, ce qui peut nous permettre également d'avoir clairement des opportunités de valorisation de ces actifs-là, mais qu'on ne peut pas laisser dans l'état et dans le mode de fonctionnement dans lequel ils étaient précédemment.
D'accord, donc vous avez défoncé ma question sur la hausse des loyers. Alors il y a une autre classe d'actifs, d'autres classes d'actifs qui sont en train de monter en puissance, celles qu'on appelait auparavant les classes d'actifs alternatives, santé, logistique, résidentiel, résident géré, etc. Perial d'ailleurs s'est positionné en partie sur ce créneau avec PF Hospitalité Europe, mais est-ce que c'est monté en puissance, c'est un effet de mode ou une tendance de long terme selon vous ?
Pour nous, c'est clairement une tendance de fond, et non seulement on a créé effectivement un véhicule dédié qui fonctionne d'ailleurs très très bien depuis un an, donc PF Hospitalité Europe, mais nous avons également rentré des poches de diversification sur l'ensemble de nos fonds sur ces thématiques-là. Alors nous, on intervient plutôt sur la résidence gérée, donc de la résidence étudiant en passant par la résidence senior ou le co-living, sur de la santé long séjour, donc soins de suite, réadaptation, EHPAD et cliniques psychiatriques, et également les sujets d'hôtellerie, de para-hôtellerie et d'enseignement. Donc ce sont l'ensemble de ces classes d'actifs sur lesquelles nous investissons dans PFHE, plutôt hors de France, sur cette partie-là, et dans des véhicules comme PF Grand Paris ou PFO2, et dans PFO, qui bien entendu est notre SCPI diversifié, on s'autorise à rentrer ce type de produit plutôt acyclique, avec des locataires donc de très long terme, et en fait qui nous permettent de bénéficier à la fois des avantages du résidentiel dans des niveaux de risque faibles et les avantages de l'immobilier entreprise avec des baux sécurisés long terme avec des exploitants de qualité.
Oui, c'est la caractéristique. Alors, j'ai vu qu'il y avait une classe d'actifs qui était en train de monter, plus particulièrement, c'est l'immobilier d'enseignement. Est-ce que vous êtes présent sur ce créneau ?
Alors, on est présent, on n'est pas assez présent à notre goût, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même très peu de produits sur le marché. Donc, c'est un produit de niche, du sell-in de leaseback, de la création d'actifs sur mesure, pour le compte des clients écoles, enseignement. Les demandes sont très fortes, elles sont fortes dans tous les pays sur lesquels on intervient aujourd'hui, et nous nous positionnons bien entendu à l'achat dès qu'on peut, et quand on peut arriver à marier l'école, le projet immobilier et tout emboîter pour fabriquer une très belle histoire, on n'hésite pas un seul instant à le faire.
Alors, on vient de parler de PF Hospitalité Europe. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on fasse un petit bilan 2021 de l'activité de Perial, notamment en termes de collecte et puis de rendement prévisionnel de vos 4 SCPI.
Alors, je pourrais pas vous donner à date les rendements très précis. Puisqu'on va pas encore les publier, on les publiera en janvier. Ce que je peux vous dire, déjà on est sur sans doute la meilleure année de Perial en termes de collecte, on va dépasser les 600 millions d'euros de collecte, ça c'est un point extrêmement important, et avec l'effet de levier, on va avoir des volumes d'investissement supérieurs à 800 millions d'euros cette année, et probablement encore supérieurs l'année prochaine. On a déjà sécurisé 700 millions d'euros de nouveaux deals qui vont être régularisés d'ici la fin du mois d'avril.
Vous visiez, je crois, 1 milliard d'investissements.
Exactement, donc avec les engagements que nous avons aujourd'hui sous exclusivité, nous avons clairement dépassé ce niveau. Côté rendement, une année plutôt solide, avec des rendements qui seront dans les purs de ce qu'on a annoncé aux alentours de 4,5% pour faire simple, à la fois sur PF Grand Paris et PFO2. Sur PF Hospitalité Europe, un rendement aux alentours de 4%, mais très clairement avec une augmentation significative conforme à nos feuilles de route dès le début de l'année 2022, puisque sur les produits alternatifs, on a vécu, notamment au premier semestre de l'année 2021, les fermetures liées au Covid qui ont nécessité un petit peu plus de temps pour réaliser les investissements. Mais en tout cas, nous avons un pipe très solide et des perspectives d'augmentation très significatives de nos rendements sur PFHE. Et enfin sur PFO, qui l'a diversifié, où on avait un rendement qui était peut-être un petit peu en retrait aux alentours de 4,25% l'an passé, lié notamment à un positionnement sur l'hôtellerie et le commerce. Nous avons une amélioration très significative de ce rendement qui devrait rentrer sans aucune difficulté dans la fourchette de 4,5-5% que nous nous étions fixés. Donc, et là, je parle plutôt de rendement hors nouveau mode de calcul sur...
C'est un autre sujet, la nouvelle réglementation de la SPIM sur le thème. Donc en fait, pour résumer, des performances 2021 qui seront légèrement supérieures, si j'ai bien compris, ou en phase avec celles de 2020. Loïc Hervé, merci beaucoup.
Merci à vous.
Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.